Seigneur, nous voulons encore t'écouter. Nous voulons encore que tu nous parles parce que nous sommes venus au rendez-vous avec toi. Merci Seigneur parce que tu as prévu la part de tout chacun de nous. Tu veux nous changer, tu veux nous transformer. Tu veux nous amener du point A au point B. Tu veux nous amener dans une autre dimension de foi. Tu ne veux pas que nous restions le même. C'est pourquoi tu veux encore utiliser ton serviteur comme un simple instrument. Parce que toi, tu veux juste l'utiliser et nous serons en train de t'écouter. Seigneur, utilise-lui parce qu'il a besoin de toi. Lorsque tout ce qui est de toi, Seigneur Dieu, qu'il puisse être transmis par lui. Et merci Seigneur Dieu parce que tu vas nous parler. Merci Seigneur Dieu parce que tu vas donner à chacun sa part. Merci Seigneur. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Et nous voulons passer à l'obéissance. Nous voulons que tout ce que tu vas nous transmettre, que nous puissions t'obéir et que nous puissions le mettre en pratique. Parce que ça va transformer nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen.
Bonjour à tous. Nous disons merci à Dieu qui nous donne la grâce et le privilège d'être devant vous pour conduire la réflexion sur la parole de Dieu que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, nous allons lire les versets 1. Nous allons sauter au verset 4 et nous allons aller jusqu'au verset 11. La parole de Dieu dit, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit, la parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il les veut. C'est la parole de Dieu. Dans ce texte qui est long, nous voulons réfléchir sur l'Église et l'œuvre du Saint-Esprit. L'Église et l'œuvre du Saint-Esprit. Et l'angle dans lequel nous allons traiter ce thème tourne autour des dons spirituels, leurs bienfaits et les défis liés à ces dons spirituels que le Seigneur veut que nous puissions relever dans notre vie personnelle, mais aussi dans la vie de l'Église. Vous allez vous rappeler que la paroisse a organisé et est en train d'organiser une série de 14 jours de prières sous jeûne accompagnée des enseignements. Ces enseignements vont tourner, ont commencé déjà depuis le lundi passé, tournant autour des dons spirituels, mais nous allons aussi parler des songes, les bienfaits, mais aussi les défis que cela pose à la vie de chrétien au sein de l'Église et à la vie de l'Église tout entière. Alors, la première semaine, il s'agissait des dons spirituels. Nous avons réfléchi sur les bienfaits des dons spirituels. Nous avons réfléchi sur les défis. Comment ça fonctionne pour que vous ne puissiez pas être tenté, pour que vous ne puissiez pas vous laisser manipuler par le diable, parce que le diable est tout près de ceux-là qui cherchent Dieu, tout près de ceux-là à qui Dieu a déjà distribué les dons spirituels. La Bible dit qu'il est capable qu'un esprit impur se transforme en ange de lumière. Alors nous devons faire attention pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Aujourd'hui, nous sommes en train de boucler cette leçon sur les dons spirituels, les avantages ou bienfaits et les défis que cela présente, que nous sommes appelés de relever. Pendant que nous étions de réfléchir sur ce thème, nous avons parlé de la définition des dons spirituels. Les dons spirituels ne sont autre chose que des manifestations surnaturelles que le Seigneur choisit d'implémenter dans la vie de quelqu'un, des chrétiens qui sont nés de nouveau, parce qu'il a une mission, il a une œuvre qu'il veut accomplir et il passe par ceux-là qui sont nés de nouveau à leur distribuer des manifestations surnaturelles, extraordinaires, pour que, utilisés par Dieu, ils puissent accomplir la volonté de Dieu à un moment particulier de la vie de l'Église. Nous avons compris que les dons de l'Esprit ne fonctionnent qu'à l'intérieur de l'Église. Si quelqu'un va en dehors de l'Église, alors là, ce qui fonctionne en dehors, à l'extérieur de l'Église, même si ça peut ressembler au don spirituel, c'est un don spirituel, mais pas donné par le Saint-Esprit. Ça peut être donné par un autre esprit, et là, il faut faire beaucoup attention. Nous avons compris que les dons spirituels ne s'apprennent pas. On n'apprend pas les dons spirituels. Il n'y a pas d'exercice que vous devez faire pour apprendre à utiliser les dons spirituels. On apprend sur les dons spirituels, mais on n'apprend pas les dons spirituels. Nous avons aussi compris que les dons spirituels, on ne peut pas les posséder. On ne les possède pas, mais on les reçoit. On ne peut pas se réveiller le matin avec un don spirituel. On se trimballe avec ça dans le quartier toute la journée et on revient, on dort avec le don spirituel. Ça, ce n'est pas un don spirituel. Les dons spirituels se reçoivent. Nous recevons les dons spirituels en provenance du Saint-Esprit. Si nous sommes nés de nouveau, alors nous sommes éligibles pour recevoir les dons spirituels. Et nous les recevons à des moments spécifiques, à des moments particuliers. Quand le Seigneur veut manifester sa gloire, il a une œuvre spécifique, spéciale, particulière à accomplir au sein de l'Église. Alors, c'est lui qui vient agir. Le don spirituel, c'est une action surnaturelle de Dieu, par son Saint-Esprit, qui réalise une manifestation surnaturelle dans la vie de quelqu'un qui est né de nouveau. Nous avons aussi compris que tout le monde qui pense qu'il peut ouvrir une école pour apprendre aux gens d'utiliser les dons spirituels, il est en train de mentir, et ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Par la suite, nous avons parlé de la différence entre les dons spirituels et les talents, pour dire que ceux-là, même à l'Église, qui peuvent faire de bonnes choses, ce sont des informaticiens qui savent faire des applications qui aident l'Église. Ça, ce n'est pas un don spirituel, c'est un talent. C'est une bonne chose de voir que les votes se passent à Gomaville comme ça se passe, pas comme dans des autres églises. On utilise l'informatique, la sagesse que Dieu a donnée naturellement, et ça fait des exploits. Amen. Ce sont des talents que Dieu distribue à partir de la naissance. Mais n'appelez pas ça don spirituel. Chanter bien comme avec une voix angélique, c'est un talent. Vous voyez nos talents qui sont là dans la chorale, beaucoup de talents. Ce sont des talents. N'appelez pas ça don spirituel parce que ça peut ne pas l'être, mais ça vient de Dieu. Et nous les avons d'une manière innée. Nous avons aussi distingué entre les dons spirituels et les ministères. Les ministères, c'est les services que nous rendons à Dieu dans l'Église. Les talents peuvent être possédés par les païens qui ne sont pas encore nés de nouveau, mais ils ne peuvent pas avoir les dons spirituels parce que c'est l'Esprit de Dieu qui les donne à ceux-là qui sont nés de nouveau. On peut avoir des choses qui ressemblent aux dons spirituels, mais qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Wambale, que vous voyez ici, il a été musicien, pianiste, avant de venir à l'Église, n'est-ce pas? Et il l'a fait bien. C'est un talent. Quand il vient ici, il fait le piano à l'église, c'est un ministère. Ça va? Mais ce ministère-là peut être valorisé aux yeux de Dieu pour faire éclater la gloire de Dieu lorsque les dons de Dieu viennent, agissent et lift, élève, valorise ce que la personne humaine est en train de faire. C'est comme ça que vous avez différents ministères dans l'église. C'est cité. Alors donc, notre attention a été focalisée beaucoup plus sur les dons spirituels tels que présentés dans 1 Corinthiens, parce que c'est dans un contexte précis. Et je veux vous dire que 1 Corinthiens, chapitre 12, c'est le fondement, c'est le texte fondateur qui parle le mieux des dons spirituels. Alors, le ministère peut avoir l'intervention surnaturelle de Dieu par son Saint-Esprit. Et pendant que nous sommes en train de réaliser ce ministère, Dieu vient, il fait quelque chose de surnaturel. Je vais vous dire une chose. Les dons spirituels, c'est une action divine surnaturelle qui intervient et qui se manifeste puissamment dans une action humaine naturelle. Amen. De cette manière-là, il n'y a personne qui peut dire « moi je possède les dons tels » parce que vous ne pouvez pas posséder Dieu. Les dons spirituels, c'est la présence de Dieu agissante et opérante qui vient instantanément, qui fait quelque chose. Quand Dieu décide de commencer à faire, il fait. Quand il décide de finir à faire, il fait. Il finit. Alors, vous ne le maîtrisez pas. Vous n'allez pas posséder Dieu pour commencer à le manipuler comme une baguette magique. C'est Dieu qui vous utilise et non pas vous qui utilisez Dieu. Ça, c'est une équivoque à bien lever. On a parlé de la classification des dons spirituels, on a parlé aussi de l'origine des dons spirituels et de l'objectif des dons spirituels. C'est Dieu qui donne les dons. Mais ceux qui ressemblent à des dons peuvent être aussi donnés par des esprits du mal et ça peut fonctionner à l'église et les gens vont être emportés, ils vont croire que c'est Dieu alors que Dieu n'est pas là. Amen. Ça vient seulement de Dieu. Mais il y a des contrefaçons. Il y a des imitations diaboliques, des dons spirituels, et ça fonctionne dans des rassemblements qui ressemblent à l'Église. Et ça, là, vous allez les trouver beaucoup d'endroits. C'est dans des chambres de prière qui sont créées pour des intentions autres que l'intention de la mission de l'Église. Amen. Alors, on a aussi parlé du but. Un don spirituel est donné par Dieu pour que celui qui va voir comment ça opère soit béni, soit édifié. C'est le critère. Si un don spirituel vient agir et que ceux-là qui écoutent ou qui voient, au lieu d'être édifiés, ils sont détruits, ça c'est un signe que ce n'est pas un don spirituel. Amen. C'est comme ça que vous allez avoir des gens qui disent qu'ils ont le don de prophétie. Et ils disent, bon, Dieu m'a dit que toi, celui-là que tu as comme mari ou épouse, n'est pas le vôtre. Il doit y avoir un autre, tu t'étais trompé. Un don spirituel qui vient diviser, un don spirituel qui vient créer des conflits, ce n'est pas un don spirituel, c'est un don diabolique. Allez dire à tous ceux-là qui font ça, qu'ils sont utilisés, manipulés par le diable. Et si quelqu'un a commencé à le faire ici, il faut qu'il sache qu'il est sur une pente glissante, il est en train d'être entraîné à sa terrible perte. Amen. Vous dites amen, hein? Amen. Ok, merci beaucoup. C'est que vous acceptez que s'il est là, il se perd grandement et gravement. Nous avons parlé des 9 dons spirituels, les dons de la parole de sagesse. On n'a pas la possibilité de revenir sur les détails sur chaque don, mais comprenez quand même que c'est ce que nous avons fait durant la semaine. Deuxième don, le don de la parole de connaissance, le don du discernement des esprits, le don de la foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, 7, le don de la prophétie, 8, le don de parler en langue, et enfin le don de l'interprétation des langues. Il est difficile pour nous de revenir sur chaque don en détail, mais nous avons pensé aujourd'hui de parler seulement du don de parler en langue et du don d'interprétation des langues, parce que ce sont des dons qui vont ensemble. Amen. Pourquoi parler de cela de manière privilégiée? C'est parce qu'aujourd'hui, les dons de parler en langue est en train de faire des ravages dans des églises et dans des groupes de prières, dans des groupes d'études bibliques, dans des groupes. Ça peut être un groupe de chorale, ça peut être un groupe je ne sais pas de quoi. Faites attention. Les intercesseurs sont là? Les intercesseurs, vous êtes là? Et les intercesseurs se cachent. Faites ça bien. Vous êtes là? Merci beaucoup. Intercesseurs, faites attention avec le parler à langue, parce que le diable, il est en train de se transformer en ange de lumière dans cette histoire-là. Faites attention, parce que vous devez avoir le discernement des esprits. Pour discerner ça, ça vient de l'Esprit de Dieu, et ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, le parler à langue, c'est quoi? C'est une manifestation surnaturelle qu'aucune personne ne maîtrise. Parce que c'est Dieu qui décide d'agir dans la vie d'une personne née de nouveau pour communiquer des secrets qu'on a reçus de Dieu. Parce qu'il y a un message spécifique pour des personnes particulières dans une circonstance spécifique et le Seigneur a un problème spécifique à résoudre. C'est comme ça qu'il donne un message au travers de cette langue, le parler en langue. Et ça va mettre dans la main avec les dons d'interprétation des langues. Notez bien, la Bible telle que nous allons les voir dans la parole de Dieu maintenant. Si une langue apparaît et qu'à côté il n'y a pas d'interprétation des langues, le diable est déjà entré. Amen. Et le « Amen » ne va pas. Je ne veux pas vous scandaliser, je veux dire ce que la parole de Dieu dit. Si tu te sens offensé, venez, on va arranger. Si il y a une langue et qu'à côté il n'apparaît pas l'interprétation des langues, c'est un signe que le Saint-Esprit a croisé les bras et que l'esprit, celui-là, l'autre est là, il est entré et il est à l'œuvre. Amen. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, la Bible est claire. Là, je ne vais pas dire ce que moi je pense, mais je voudrais que nous puissions dire ce que la Bible dit dans Hébreux et dans 2 Corinthiens chapitre 14. Là, nous allons passer, allons à 14. Là où la parole de Dieu dit au verset 1, « Recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. » En effet, celui qui parle en langue ne parle pas à qui? Aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alors, ça continue, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Là, nous sommes dans une langue, c'est un des dons spirituels et ça revient sur l'objectif des dons spirituels. Si les dons spirituels ne consolent pas, si les dons spirituels n'édifient pas les membres de l'Église, si les dons spirituels n'est pas une exhortation en faveur de la croissance individuelle et collective des membres de l'Église, alors il n'est pas un don de l'Esprit de Dieu. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ces derniers n'interprètent pour que l'Église reçoive comment? L'édification. Parler en langue, oui, vous êtes autorisé, mais c'est une langue qui a de la valeur. Elle sera sans valeur à moins qu'il y ait l'interprétation. Alors, et maintenant, frère, de quelle utilité serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation et par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Et il continue à dire des choses. Laissez-moi vous insinuer une autre vérité. En fait, ceux qui ont approfondi l'étude sur les langues, ils ont conclu leur étude en disant, quand Paul parle de diversité de langues, ils ont trouvé deux sortes de langues. La première sorte de langue qui est appelée la xénoglossie. La deuxième sorte de langue qui est appelée glossolalie. Xénoglossie. Il y a xéno, c'est un terme grec. Il y a glossa, c'est aussi un terme grec. Est-ce que vous vous souvenez immédiatement des mots français dans lesquels il y a xéno? Xénophobie. Xéno signifie étranger, phobie signifie peur ou haine. Alors, xénophobie signifie la peur de l'étranger. Alors, xéno, c'est étranger. Glossa, c'est langue. Alors, cette même catégorie de langue, parler, dans les parler en langue, c'est une langue étrangère connue qui existe parmi les humains. Mais c'est une langue que lorsqu'elle est parlée ici, à Gomaville, cette langue n'est pas connue par les gens de Gomaville. Même celui qui parle la langue, d'aller parler la langue, il n'a jamais appris cette langue, il ne comprend même pas cette langue lui-même, parce qu'il ne l'a pas apprise. Alors il la parle, parce que Dieu l'utilise. Dieu qui connaît toutes les langues peut utiliser la sœur Jackie ici, qui va parler en langue sans connaître, elle parle les Russes sans connaître les Russes. Il y a quelqu'un qui connaît les Russes ici? Même Ephèse, on ne connaît pas les Russes. Personne, même moi-même, je ne connais pas. Si les Russes parlent ici, je peux croire que c'est les Chinois, parce que même les Chinois, je ne connais pas. Alors, quelqu'un parle les Russes, il n'y a personne qui écoute, mais à côté, parce que ça va de pair, il faut qu'il y ait soit quelqu'un qui a étudié les Russes, qui connaît et maîtrise les Russes, et qui peut dire, j'écoute ce qu'il est en train de dire, il a dit ABC. C'est ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2 avec une multitude de nations, de toutes les langues. Alors le Seigneur veut agir pour gagner les âmes à Christ. Il distribue aux disciples, à l'un le parthe, à l'autre le grec, à l'autre le... Lisez le chapitre 2 de Actes, vous allez comprendre que les gens ont parlé des langues qu'ils ne connaissent pas. Et c'est ça que ceux qui connaissaient les langues disent, mais ça ici, ce sont des Hébreux, des Galiléens. Comment ils peuvent parler, s'exprimer en une langue que nous maîtrisons, que eux ne connaissent pas? Ça, c'est le Saint-Esprit et c'est Dieu, parce qu'il avait une mission à ce moment-là et il l'a accomplie. Après l'avoir accomplie, quand Dieu a décidé de commencer, il a commencé. Quand il a décidé de terminer, il a terminé. Personne ne possédait pas cette langue-là, parce que c'était un don. Ils n'ont pas appris. Ils ont seulement constaté que Dieu est en action. Ils ont constaté que Dieu vient de finir son action. Et ils ont constaté seulement les effets. Les gens disent, homme frère, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce qu'il nous parle de notre conversion. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Dites-nous à hâte parce que nous voyons que nous périssons. Amen. Parce que Dieu a choisi d'agir et il a agi à ce moment. Ça, c'est la xénoglossie. Amen. Amen. Une langue étrangère. Alors, s'il n'y a pas quelqu'un qui connaît la langue, Dieu va se manifester au travers quelqu'un d'autre qui ne connaît rien, qui n'a rien appris. Il lui donne la connaissance de la langue et il commence à dire. Ce qu'il est en train de dire, c'est A, B, C, D. Quand il aura terminé avec cette onction du Saint-Esprit, il a terminé, alors il quitte l'espace et il ne connaît plus rien. On dit, c'est toi qui as dit que c'est ceci. Dis-moi, je ne sais pas si j'ai dit ça. Parce que lui n'a rien dit. C'est Dieu qui a dit en lui. Donc, quand Dieu ne dit plus rien à lui, il ne connaît plus ce qui se passe. C'est ça la première sorte de glosse, de langue, de parler en langue qu'on appelle xénoglossie. Deuxième, c'est la glossolalie. Retenez que dans la Bible, quand on dit langue, c'est glossa. Amen. Alors ici, c'est la deuxième catégorie, c'est glossolalie. c'est aussi deux termes grecs. Glossa comme langue, lalia comme bavardage. J'ai été surpris quand j'ai vu ça. Et puis, bavardage, pas n'importe quel bavardage. C'est un bavardage où une personne est en train de parler. Il utilise des mots qui ne sont pas humains, qui ne se retrouvent dans aucune langue humaine sur la terre. Et il est en train de parler, Lui-même ne sait pas ce qu'il dit. Ceux qui écoutent ne savent pas ce qu'il dit. Il n'y a que celui qui va recevoir aussi les dons d'interprétation qui va dire, il a dit ABC. Mais il est en train d'utiliser des paroles, et c'est la lia en grec, c'est abondance de paroles qui n'ont aucun sens ni aucune importance. C'est ça la glosso, lalia. Glossa, lalia. Alors, faites attention, quand vous commencez à dire barabara, barabababa, si vous étiez en train de prier, nous on doit ouvrir les yeux, commencer avec des. Mais celui-ci bavarde avec des mots qui n'ont aucun sens ni aucune importance. Faites attention. Je vous encourage à continuer. En fait, la procédure, c'est celle-ci. Chorale, vous êtes, Intercession, vous êtes là? Les mamans, vous êtes là? Ce sont les mamans qui parlent beaucoup plus en langue. Parce qu'elles croient vite. Elles se relèvent vite, mais il faut faire attention. Si vous relevez vite, ne tombez pas vite. Parce que sinon, l'accident sera grave. Quand vous commencez à dire bara, barabashi, bara, arrêtez-vous un instant pour voir s'il y a un interprète à côté. S'il n'y a pas un interprète à ton côté, taisez-vous. C'est ce que la Bible dit. Alors, verset 26. Alors, verset 26 jusqu'à verset 28. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout s'efface. Pourquoi? Pour l'édification. Votre barabashi, baraba. Il faut que quelqu'un qui est à côté soit édifié. Et il sera édifié seulement lorsqu'il va savoir que ce ne sont pas des paroles et des bavardages inutiles. Alors, si vous vous arrêtez un instant et il n'y a pas d'interprète, taisez-vous, c'est ce que la Bible va nous dire maintenant. 26-27. En est-il qui parle en langue? Que deux ou trois au plus? Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais retourner là. En est-il qui parle en langue? Dans la chorale, en est-il qui parle en langue? Parmi les mamans, en est-il qui parle la langue? À l'intercession, où les papas ne sont pas cités parce qu'ici, ils n'ont pas encore commencé leur homme et famille. Hein? Peut-être ils sont un peu préservés, mais il faut vite commencer pour savoir si vous allez tomber dans les pièges du diable en parlant les glossalalia ou ne pas la xénoglossie. Il dit, en est-il qui parle la langue? Que deux ou trois, tout au plus, chacun, que deux ou trois tout au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, ça c'est le verset combien? 28. Qu'on s'efface quoi? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Chorale, taisez-vous si vous voulez parler à langue et qu'il n'y a pas d'interprète. Intercession. Ah, je voyais que j'ai peur de lui dire taisez-vous, mais on dit qu'il se taise. Et c'est là éternellement. S'il n'y a pas de langue, allez-y pour l'éternité, taisez-vous. Qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Alors, la langue n'est pas interdite si vous êtes dans un endroit où vous pouvez être seulement toi et Dieu. Ça va? Toi et Dieu, parlez en langue. Toi, Dieu et nous, taisez-vous. C'est ce que la Bible dit. Tu es avec Dieu, nous n'en disconvenons pas, mais si moi je suis là, tais-toi. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète, alors parlez à haute voix. Amen. C'est ça le principe. Et je ne vois pas quelqu'un qui va s'improviser en disant, bon, alors, vous tous ici, levez-vous, parlez en langue. Si quelqu'un commence là, vous allez dire, bon, il est sur un terrain glissant. Même si c'est Festo qui est le responsable de cette paroisse, Que quelqu'un dise, tout le monde, levez-vous, commençons à parler la langue. Ça, c'est le diable qui est assis dans les lieux saints. Faites attention avec la langue. C'est un couteau à comment? À deux tranchants. Ça peut vous couper sans que vous le sachiez. Ça, c'est la formule de Dieu. Ça, c'est la disposition que Dieu a mise dans l'Église. Les dons n'opèrent pas en dehors de l'Église, ça opère au sein de l'Église. En dehors de l'Église, dans les tchumba-tchumba là-bas, faites attention, vous allez y aller, vous risquez d'y laisser votre peau. Si vous ne laissez pas la peau, vous allez y laisser votre foi, s'il y en a eu une. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, parler la langue, oui, c'est permis, mais il faut vous rassurer. Est-ce qu'à côté, il y a un interprète? S'il n'y en a pas, tais-toi. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. N'allez pas m'accuser que le pasteur a commencé à injurier les gens en disant « Funga kinyo ». Ça, c'est la Bible qui l'a dit. Je l'ai dit parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a dit. Tais-toi, tais-toi et tais-toi encore. Si tu oses, alors tu as la disposition du Saint-Esprit. Il va t'occuper de toi. Il va s'occuper de toi. Amen. Amen. En dehors de ça, il dit, si c'est dans l'église, même s'il y a interprétation, pas de désordre. Kwa uzuri na kwa utaratibu. Le utaratibu dit que dans une assemblée de 1500 personnes, comme nous sommes à Gomaville, une seule personne a l'autorisation de parler en langue. Une et une seule. Pas deux personnes à la fois. Une et une seule. S'il y a deux ou trois, il dit trois tout au plus, ils peuvent parler. Mais chacun l'un après l'autre. Mais qu'est-ce que nous voyons dans les églises et dans les groupes de prière? Vous avez déjà été là? Vous avez déjà été là? Femme, ne courez pas là-bas. Parce que vous allez trouver... Quand vous voyez dans un groupe, je crois que ce ne sont même pas des groupes, ce sont des vies groupées, ils viennent, ils parlent tous à la fois. Ça, c'est un désordre. Le Saint-Esprit n'a jamais dit que ça doit être comme ça. Ça, c'est la Bible. Je vous informe encore une fois. Il n'y a aucune parole, aucun mot qui a été placé dans la Bible au hasard. Chaque mot est à sa place et le choix a été dicté par le Saint-Esprit. Et c'est lui qui parle ici. Que l'un parle et que les autres écoutent. Quand il a terminé, il y a eu interprétation, que le deuxième parle. Quand il a terminé, qui est interprétant, le troisième parle tout au plus et tous les autres se taisent. Parce que ce qui n'a pas été vendu dans un marché attend le marché prochain. Vous attendez un autre culte où vous allez commencer aussi à parler. Vous êtes les premiers, les deuxièmes, les troisièmes. On boucle la boucle et les autres rentrent. Ils viendront parler la semaine prochaine. C'est ça la Bible. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Amen. Amen. Alors, comme vous commencez à penser que je vous injurie, je crois que je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse.